Dans le cadre de Vinapogé 2024, nous vous présentons un atelier intitulé Dégustation géosensorielle. Jean-Michel Dyce, le célèbre vigneron de Bergheim, avec la complicité de Gabriel Lépouzé, chercheur en neurosciences, convie à une expérience de dégustation géosensorielle, une rencontre avec l'énergie du vin pour comprendre le lieu, le paysage, le sol qui imprime la vigne et donne forme au vin. Cette lecture sensorielle du terroir, qui s'intéresse en particulier à la texture, la structure et l'architecture du vin, invite à ressentir la verticalité cristalline et l'horizontalité sédimentaire, la luminosité des calcaires, l'épaisseur sombre et froide des argiles.
Bonjour à tous. Voilà, je suis très très fier de faire ce travail avec Gabriel. Nous sommes reliés tous les deux, malgré la distance, parce qu'on se voit peu, par une prise de conscience extrêmement puissante, que l'être humain dispose de ressources qui sont vertigineuses et qui sont notoirement sous-utilisées dans l'acte de dégustation. Puisque l'acte de dégustation aujourd'hui, au bout d'un effort de formation qui a débuté avec la création du verre INAO en 1970, cet effort de formation vigoureux, qui part des instances juridiques de la viticulture, qui devant la nécessité de normaliser, de savoir de quoi on parle, fabrique un outil très simple, le verre INAO. Comprenez, si tout le monde goûte dans le verre INAO, on saura ce qu'il y a dans les verres. C'était juste oublier que dans le couple vin-dégustateur, le maillon faible, c'est presque jamais le vin, c'est toujours le bonhomme. D'accord? C'est pour ça que Gabriel est là. On pourra s'appuyer sur ses ressources extrêmement puissantes. Donc je vais vous parler en premier de dégustation intuitive, qui est certainement un sujet que vous ne connaissez absolument pas, pour l'immense majorité. Vous n'avez jamais eu l'intention, ni l'expérience, ni l'accompagnement d'aller dans l'intuition. Il y a un chiffre qu'il faut connaître, d'après un article que j'ai vu, qui semble sérieux au point de vue scientifique, 60% au moins des décisions de l'être humain au quotidien sont mieux éclairées par l'intuition que par la logique ou le calcul. On sait spontanément le chemin qu'il faut prendre. On ne se fait pas toujours confiance, mais c'est rarement une hypothèse totalement erronée. Donc on peut aussi goûter le vin sous l'angle de l'intuition. Et pour ça, il faut nous libérer d'un sens extrêmement puissant, dominant, prédateur, dont Gabriel va certainement parler, qui est la vue. Parce que dans les cinq sens que nous avons, il n'y en a pas quatre, il y en a au moins cinq. Nous avons un sens ignoré qui, moi, depuis que j'ai compris ça, me tient énormément à cœur. C'est le sens de l'aveugle. Réfléchissez. L'aveugle rentre dans cette pièce. La question qu'il se pose, elle est double. Est-ce que cette pièce est vide ou est-ce qu'elle accueille des gens? C'est la notion de présence. Et ensuite, est-ce que cette présence est bienveillante? Est-ce que ces gens ont fait des trous pour que le prochain pas je tombe? Est-ce qu'ils vont me faire la peau? C'est la question de bienveillance. Voilà les deux questions fondamentales de l'aveugle. Donc on va faire un tout petit exercice, très simple, que je vais vous montrer. Et après, vous allez mettre le petit bandeau et vous allez rejoindre la communauté des aveugles. Vous allez vous priver de la vue. Et vous allez rentrer dans un espace tout à fait extraordinaire où vous aurez l'intuition qui vous aidera à savoir le niveau de présence et le niveau de bienveillance. Et donc, on va faire un petit exercice. Je le montre pour que tout le monde le voit. Vous aurez deux verres devant vous. On va vous expliquer un peu comment ça marche pendant le temps où je vais vous priver de la vue avec le petit bandeau qui est posé devant vous. Il faut quelques minutes pour que votre cerveau accepte d'être dans le noir. Vous allez voir au départ, c'est pas noir du tout, il y a plein de traits, c'est un ciel étoilé, ça bouge dans tous les sens. Votre cerveau est en panique parce que lui, il tient pour à peu près sûr l'image qu'il voit. qui d'ailleurs nécessite énormément de ressources cérébrales pour être gérée. L'image qu'on voit, c'est extrêmement pesant au plan cérébral. Regardez un truc très simple. Je prends mon téléphone. Je regarde TikTok. Image animée, plus bruit. Qu'est-ce que je peux faire? Bouffer du pop-corn. Il n'y a plus de place. Le cerveau est plein. On capture les êtres humains en saturant leur cerveau d'images et de bruits. Ils ne peuvent plus rien ressentir, ils sont bloqués, ils sont remplis. D'accord ? Donc on recule dans le noir, on se libère de cette prégnance de l'image qui nous coûte énormément de ressources cérébrales et nous empêche de voir le monde finalement. Et on va, sans toucher le verre, juste avec nos mains, en calice, entourer le verre, et ressentir une présence et une bienveillance. Donc, vous allez tous, soyez gentils, mettre le bandeau. Ce n'est pas un examen. Je ne connaîtrai pas le résultat. Le résultat individuel ne m'intéresse pas. Vous serez seul à savoir si vous l'avez réussi ou pas. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Vous allez douter, c'est normal. Celui qui ne doute pas n'est pas humain. Donc, voilà, au départ, c'est compliqué, il y a plein de traits. Votre cerveau, il n'est pas d'accord du tout. Gabriel peut peut-être dire quelques mots pour expliciter plus en détail scientifiquement les quelques points importants que j'ai abordés. Et ensuite, je verserai dans un des verres, vous ne savez pas lequel, une toute petite larme de vin. 15 gouttes. Vous verrez que dans ce verre où il y a 15 gouttes, il se passe quelque chose qui n'existe pas dans l'autre verre.
Bonjour à tous. Vous êtes tous dans le noir, mais moi je vous vois bien. Et je vous souhaite, pour cette nouvelle année en tout cas, de vivre la même expérience que moi j'ai vécue la première fois quand j'ai rencontré Jean-Michel, qu'on va essayer de revivre ensemble aujourd'hui. C'est de par cet exercice où on se prive d'attention extérieure, mais on se plonge dans l'attention intérieure, on essaie de se reconnecter avec des modalités sensorielles qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser ou qu'on n'utilise pas de manière automatique. Une idée simple que Jean-Michel met en application ici, c'est quand on ferme les yeux et qu'on regarde l'activité cérébrale dans votre cerveau, on se rend compte que les systèmes olfactifs et gustatifs, ils augmentent en activité quand on ferme les yeux. Et quand on ouvre les yeux, ils rediminuent en activité. Donc la simple chose qu'on essaye de faire ici, c'est de vous priver de la vue pour mieux mettre vos centres olfactifs et gustatifs en éveil. On augmente le gain, on augmente le volume. Ça va passer aussi par une écoute plus de vos sens internes. Qu'est-ce qui se passe dans votre bouche, dans votre corps, dans vos mains? Et cette attention intérieure, elle n'est plus rythmée par le temps qu'il y a autour, par le bruit. Vous écoutez vous-même, vous êtes en face de vous-même. Et l'audience aussi a disparu, il n'y a plus personne qui vous regarde, puisque vous êtes dans le noir. Donc, avant de se lancer, pendant qu'on va servir les verres, vous allez essayer, pour commencer à s'initier un peu à cet exercice-là, vous allez essayer de faire plusieurs inspirations et expirations juste pour prendre le pouls de votre propre corps. Vous respirez profondément et vous crachez. Le but du jeu, ce n'est pas de faire un exercice de méditation, c'est juste de s'habituer à écouter ce qui se passe au rythme de votre corps. Pendant que vous faites cet exercice-là, vous allez essayer de penser à autre chose, de penser à un événement, je sais pas, un événement heureux, un événement qui vous déplace de l'endroit où vous êtes.
Voilà, donc on va verser dans un des deux verres, sans ordre ni méthode. Les jeunes qui font le service vont avoir une directive de verser une fois à gauche, une fois à droite. Ils ne savent pas, moi je ne saurais pas. Normalement, on fait ça dans des verres noirs. Et vous allez approcher vos mains en cœur autour du verre. Soyez gentils, ne trichez pas, ça ne sert à rien. Ne soulevez pas le verre pour constater la différence pondérale. Ne remuez pas le verre pour ressentir la vibration d'une présence. Ne reniflez pas le verre parce que ça ne sert à rien non plus. Moi, je suis je suis là, on est là tous les deux pour libérer une potentialité que vous avez tous. Parce qu'on est tous câblés pour être aveugles. Ce soir, vous ferez l'essai. À 11h minuit, vous sortez dans la rue, vous éteignez toutes les lumières, vous faites quelques pas, et là, les questions vont commencer à se poser. Est-ce que je suis seul ou est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'on m'attend? Est-ce qu'on m'attend bienveillant ou est-ce qu'on ne m'attend pas bienveillant? Vous saurez tout de suite. Voilà. C'est ça le point important. Je donnerai le top quand tout le monde est versé. Et donc, dégustation intuitive, c'est accompagner la présence du vin, ressentir dans sa paume son rayonnement, son énergie qui circule. Vous avez des vins légers, des vins pesants, des vins où les mains montent, le verre semble flotter. D'autres, le vin est lourd, les mains descendent. La forme du verre, si on ne vous avait pas montré les verres, la forme du verre dans le noir diffère en fonction du vin qu'on a versé. Et si je verse un vin chaud, large, nourricier, le verre s'évase, devient plus large. Et à l'inverse, voilà, la forme du verre est impactée par la présence du vin. Alors bien sûr, il faut que ces vins aient certaines caractéristiques, on y arrive tout à l'heure. Vous êtes calme, tranquille, vous êtes avec vous, c'est noir. Posez bien les mains bien à plat sur la table, mettez bien vos jambes bien sur le sol à plat, vous êtes tranquille, écoutez votre respiration, écoutez votre cœur, vous êtes en paix avec vous-même, parce que vous ne pouvez pas aller vers les autres si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, c'est la première chose. D'accord ? Une fois que vous êtes là, vous pouvez approcher vos mains des deux verres et essayer de ressentir, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux verres ou pas. Faites les deux verres successivement. Alors le jeu consiste à ne pas toucher le verre, c'est vraiment la présence. Et vous verrez, parce que l'expérience me guide un peu, je ne vais pas préjuger du résultat, mais en général, assez vite, il y a un verre qui est plein et il y a un verre qui est vide. Vide au sens qu'il est inutile, il ne contient rien, il ne défend aucune cause, il n'en voit rien, il n'a rien à dire. L'autre, il a quelque chose à dire. Vous pouvez essayer de localiser exactement où est-ce que cette énergie, cette présence vient vous impacter. Est-ce que c'est au bout des doigts? Est-ce que c'est à la base des doigts? Est-ce que c'est au centre de la paume? Est-ce que ça remonte le long de vos bras? Est-ce que vous avez dans votre tête quelque chose qui bouge? Par exemple, est-ce que vous avez tout à coup une couleur qui envahit votre cerveau, une ambiance, un paysage? Parce qu'on va parler de synesthésie, et Gabriel en parlera beaucoup mieux que moi, parce que pour moi ça reste lourdement mystérieux, mais notre cerveau dans le noir est capable de fabriquer des images. Et des images extrêmement précises. Je vous parlerai tout à l'heure d'une dégustation que j'ai faite à Nice, qui était absolument bluffante, parce que les gens ont été capables de me raconter ma vigne, eux qui n'ont jamais été. Est-ce que vous avez localisé le verre vide et le verre plein? C'est quoi que vous recevez à partir du verre vide? C'est quoi que vous recevez à partir du verre plein? Est-ce que quelqu'un peut exprimer ce qu'il ressent à partir du verre plein, du verre qui pour lui est plein? Alors n'ayez pas peur, hein, faut se lancer, c'est comme la natation, hein, on boit la tasse une fois, deux fois, puis après on flotte. À ce stade, vous devez avoir un verre qui pour vous est plein. On verra tout à l'heure, vous verrez tout à l'heure si c'est le bon. Ça ne me regarde pas, ça ne me regarde pas. Mais ce verre qui est plein, il envoie quoi? Il vous repousse, il vous attire? Il est froid, il est lointain, il est un peu hostile, il est piquant. Au contraire, il est accueillant, il vous attire, il vous graisse la peau. C'est quoi le sentiment?
Comme si j'avais quelque chose, une boule de coton dans la main. Quelque chose comme ça. C'est pas très pesant, mais c'est caressant à l'intérieur de la main.
C'est donc plutôt léger.
C'est plutôt léger, mais c'est présent, quoi. C'est
présent, léger. Est-ce que c'est froid, est-ce que c'est chaud?
Non, c'est plutôt chaud.
Est-ce que c'est rugueux ou est-ce que c'est lisse?
Non, moi c'est doux même. C'est...
Doux?
Oui. Moi j'ai pensé à du velours.
Le lourd. Très bien. OK. Voilà. Alors, on va faire un truc très simple, hein. C'est qu'on ne connaît rien, on est sûr de rien. Mais quand je rencontre une personne, regardez, je commence par lui serrer la main et je me concentre sur sa poignée de main. Là, c'est ce que vous êtes en train de faire avec un vin. Vous êtes en train de lui serrer la main. Vous regardez ailleurs et vous écoutez l'énergie qui passe dans votre main. Quand les deux paumes vont se séparer, il y aura une trace. Vous ne pouvez commencer aucun commerce avec ce monsieur ou cette dame s'il n'y a pas de trace. D'accord ? Ça, c'est l'expérience lourde de la vie. Après, vous pourrez le prendre en bouche, vous pourrez commencer à aller plus loin, un dialogue, et vous allez apprendre couche par couche qui est là. Parce qu'il n'y a pas de révélation, c'est que des couches qu'on additionne, qu'on collationne, en élaguant, en mettant de côté de temps en temps. Voilà, la connaissance, elle n'est pas une révélation mystique, elle est une connaissance tranquille, petit segment par petit segment, on essaie de rentrer dans l'objet. Aujourd'hui, vous avez un verre qui est plein de quelque chose de léger, de quelque chose de chaud, de doux. D'accord ? Donc maintenant, vous prenez le verre qui pour vous est vide, vous l'avancez un peu plus loin sur la table. Je vais vous verser un deuxième vin dans le deuxième verre et on va essayer de travailler sur la différence.
Pour prendre la suite du message de Jean-Michel, l'idée c'est aussi de déstructurer vos automatismes. On a tendance avec un verre transparent de le regarder, de le sentir, de le goûter. Et là, dans le rituel qu'on essaye de déconstruire, on essaye de faire exactement l'inverse. Vous allez commencer par le toucher avec vos mains, sans le toucher, entre guillemets, le goûter ensuite, l'inspecter du point de vue aromatique une fois qu'il sera en bouche, et peut-être à la fin de la séance, on pourra voir la couleur de ces vins. On fait exactement l'inverse que ce que les verres classiques nous imposent de faire. Et le designer, celui qui a dessiné le verre transparent classique tel qu'on l'utilise aujourd'hui, c'est un fantastique designer qui a, par son design, imposé une séquence œil, nez, bouche, qu'on veut ici opposer dans l'autre sens. Bouche, puis peut-être le nez, et après l'œil. L'idée, c'est que vous ayez une vision globale tout de suite immédiate du vin, avec tout ce qui se passe en bouche, les saveurs, les textures, les températures, les poids, les arômes qui vont venir en rétro-nasal. Et pas qu'on décompose la chose. On veut ici vous aider à forcer la recomposition, à regarder le tableau général, et pas juste les éléments de couleur qui sont par-ci, par-là. Donc quand vous allez prendre ce vin en bouche, à un moment, là il va y avoir un deuxième vin qui arrive, mais quand vous allez commencer à goûter les vins, essayez de regarder le tableau général. Ne dites pas dans ce tableau, il y a un peu de rouge, un peu de vert, un peu de bleu, dites-moi la scène que vous voyez, une cavalcade, un paysage au bord de la mer, une forêt, un milieu froid. C'est cette image-là que je veux essayer de lancer dans votre esprit. Et le fait de mettre un bandeau vous invite à chercher dans votre imaginaire, dans votre expérience personnelle. Et après, on essaiera de retraduire du point de vue référence commune, comment les impressions de chacun, finalement, rejoignent un élément objectif qui est le vin que vous avez devant vous.
Par convention, le verre qui est devant vous, serré, plus près, c'est le verre numéro 1, ce que j'ai versé en premier. Le verre qui est un petit peu plus loin, en avant, que vous avez repoussé, c'était tout à l'heure le verre vide, c'est le verre numéro 2. D'accord ? Maintenant, vous allez remettre les deux verres en ligne et vous allez essayer de comparer. Ne goûtez pas. Vous n'êtes pas encore au point de goûter, vous êtes en train de serrer la main au vin. Vous êtes en train de faire passer, circuler l'énergie. Vous comparez ces deux verres. Accompagnez juste le vin. Voilà, vous accompagnez le vin. Ne touchez pas. Voilà. Et vous regardez s'il y a une différence avec l'autre verre. Vous regardez s'il y a une différence avec le verre numéro 2 qu'on vous a versé maintenant. Est-ce qu'ils sont... Alors, je vous signale que 95% d'entre vous ont spontanément trouvé le verre dans lequel il y a 7 mm, 10 mm de vin versus l'autre qui est vide. 95. C'est le chiffre qu'on retrouve d'habitude parce qu'il y a 5% de malheureux qui sont incapables de lâcher prise. Il faut qu'ils restent accrochés aux certitudes visuelles. Ils n'arrivent pas à devenir aveugles. Pour les autres, ça va tout seul. Voilà, maintenant vous regardez, passez d'un verre à l'autre et vous me dites les différences. Est-ce que le deuxième verre qu'on vous a versé, il est aussi léger que l'autre? Ou est-ce qu'il vous paraît plus lourd? Est-ce qu'il est aussi aérien? On m'a parlé de laine, de ouate, de nuages. Ou est-ce que c'est quelque chose de plus incarné? Est-ce qu'il y a une différence de chaleur, entre guillemets, un vin qui rayonne plus le froid et un vin qui rayonne plus le chaud? Et puis, est-ce que le paysage qui vous envahit lorsque vous vous laissez complètement aller est le même dans les deux verres? Je vois quelques personnes très rares qui n'arrivent pas, c'est compulsif. Il faut qu'ils prennent le verre en main et qu'ils le secouent vigoureusement, qu'ils fassent tourner le vin, comme s'il fallait absolument en faire sortir quelque chose que ce vin n'a pas forcément envie de donner, parce que j'ai rencontré une femme formidable, elle ne m'a pas donné plus parce que je l'ai secouée. Donc arrêtez, quoi, c'est insupportable. Pourquoi vous êtes obligé d'exercer une violence, une prédation sur un vin qui est là pour vous? Il est prêt à vous donner tout. Vous n'avez pas besoin d'attendre plus que ça. Il va vous donner tout. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux verres? Plus dense, plus serré que l'autre, qui est plus desserré, plus nuage? Alors regardez, vous allez aussi apprendre à distinguer l'énergie qui arrive tout de suite et qui arrive violemment, et l'énergie qui sourde, qui sort, qui est là, qui environne, qui vous prend, qui vous enveloppe, et qui n'a pas le même rythme. Parce qu'entre ces deux vins, en général, c'est pas le même rythme. Il y a un vin qui envoie tout de suite, et qui est peut-être un peu court, et l'autre, il est timide, il est un peu secret, un peu tranquille, il vous fait un sourire, mais c'est un sourire qui vous emmènera au bout du monde, parce qu'il a de la ressource, il envoie.
Les deux verres, le premier qui a dégagé pour moi de l'énergie, c'est celui de droite. Celui qui paraissait rempli, qui paraissait vivant, à l'inverse du verre de gauche, qui lui me semblait mort. Le verre de droite, lui, m'a dégagé très vite, comme des sortes de rayons de chaleur. Et ça m'a projeté plus comme si j'étais en face d'un foyer. Capter la chaleur, celui de gauche, je serais plutôt sur la dune du Pilat.
Alors, il faut savoir que je ne devrais pas dire ça parce que ça va encore m'attirer des foudres, mais les filles ont des grandes capacités à l'intuition que les garçons n'ont pas forcément, parce que les garçons, ils s'accrochent à l'essentiel, il faut faire l'architecture de la maison et l'échafaudage du fêtage. Alors ils ont la ceinture, les bretelles, tout, et ils ne savent pas lâcher prise. Les filles, elles lâchent prise beaucoup plus facilement, elles sont capables de dire spontanément la présence, la bienveillance, le reflet, le chaud, le froid, le rugueux, le lisse, le pointu, l'arrondi. D'accord? Voilà. Est-ce que pour vous, on est d'accord sur le fait que ces deux verres, dont vous ignorez tout, qui contiennent deux vins totalement différents, sont différents? Ils ne vous envoient pas la même chose. Après, il y a un petit travail d'apprentissage, il faut pratiquer un peu plus souvent, et puis vous ferez l'exercice, parce que c'est un exercice qui peut rapporter gros, parce qu'il vous demande quoi? Il ne vous demande rien, juste la ferveur de fermer les yeux. Il n'existe aucun miracle, aucune révélation sans ferveur. Et toutes les ferveurs passent par fermer les yeux. Donc quand vous commencez à déguster, ça ne coûte rien. Vous fermez les yeux et vous regardez si quelqu'un est là. 95% des verres, il n'y a rien dedans. Vous pouvez les remplir à ras-bord, il n'y a pas d'énergie. Le vin industriel, excusez-moi, il n'est pas fait d'énergie, il est fait d'autres choses qu'on y rajoute, essentiellement des arômes. Donc là, l'exercice qu'on fait s'adresse à des vins de lieu. C'est des vins qui portent l'énergie d'un lieu. On peut faire des séries, on a fait ça dans le diplôme universitaire. On fait des séries, on coince un vin industriel dans une série, ça ne rate pas. Les gens, pour eux, le verre est vide. Bien, maintenant, on va passer à une deuxième étape. et c'est Gabriel qui va piloter. Deuxième étape qui va, elle, être plus tactile. Et on va simplement, en prenant le vin en bouche, vérifier si les hypothèses de départ qu'on avait ressenties simplement dans la dimension énergétique sont vérifiées ou infirmées. D'accord ? Donc, je vous invite, et tu prends peut-être le manche, à prendre une toute petite goutte du vin numéro 1 et de le porter une toute petite goutte. Hein. Il vous faut très, très peu. Et de prendre en bouche et d'écouter qu'est-ce qui se passe.
Vous allez laisser le vin en bouche et vous allez essayer d'écouter le message. Et vous gardez ça en bouche et vous regardez comment le vin se développe, mais aussi comment votre corps réagit face à ce vin-là. On parle ici tout à l'heure de bienveillance, d'accueil ou pas. Est-ce que la bouche accueille ce vin? Comment vous salivez? Comment vous réagissez par la salivation face à ce vin-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans la défense, dans l'accueil? Quelle image vous vient en bouche? Et quelle image mentale, elle se projette ensuite? Vous avez le droit de faire un peu de rétro-nasal si vous avez envie, mais vu la petite goutte que vous avez prise, ça va se faire tout naturellement.
Prenez une petite goutte et vous regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Vous salivez puissamment. Vous êtes capable de localiser où vous avez salivé. Vous avez salivé au bout de la langue. C'est sapide. D'ailleurs, le vin est rentré par la pointe. Exactement. Bien, tu vois qu'on construit, et puis après, ben, on peut modifier un tout petit peu le paramètre, on est plus précis.
Mais n'essayez pas de tomber dans la confirmation. On a vu tout à l'heure que confirmer un exercice précédent, ce n'est pas forcément la manière la plus libre de penser. Regardez ce qui se passe en bouche. Après le premier chapitre que vous avez vu avec les mains, regardez ce qui se passe en bouche. Notion de javelot, où le vin se positionne naturellement, où est-ce que vous réagissez face à ce vin-là? Est-ce que c'est à l'avant, à l'arrière, sur les côtés? Et globalement, après, quelle image, quelle couleur vous vient à l'esprit? Par exemple, on peut jouer, forcer l'exercice. Est-ce qu'il y a une couleur qui vous vient à l'esprit? Couleur mentale, j'entends. Est-ce que c'est un paysage bleu, vert, jaune, ocre, noir, blanc? Blanc ici? Très clair.
J'avais tout à l'heure une impression de texture blanche,
ouais.
comme un vêtement, un vêtement vague, et il est maintenant devenu jaune.
D'accord. D'accord. Alors maintenant, vous prenez le deuxième verre, et vous allez le prendre en bouche, et vous allez regarder exactement qu'est-ce qui va vous arriver. Est-ce que vous salivez exactement comme dans le vin précédent? Vous salivez tout à fait à un autre endroit.
Au début, il est plus accueillant, et puis quand il fait un mesure qu'il recule dans la bouche, là, il devient un peu plus salivant.
Regardez aussi comment ce vin se développe sous forme d'un film. On ne regarde pas une photo, là. On regarde un film qui se développe. Et regardez ce chemin d'attaque, de fin de bouche, de réaction, de salivation face à ce vin-là. Le vin vous raconte une petite histoire, là. Ces deux vins vous racontent des petites histoires qui ont des séquences un petit peu différentes.
Alors, je propose, pour qu'on puisse se rassembler et travailler là-dessus, vous reprenez une gorgée du premier, vous regardez bien où va la goutte. Prenez le vin, vous avez une goutte qui vous impacte, c'est le point de départ, vous regardez où est-ce qu'elle va, qu'est-ce qui vous arrive.
Où est-ce que le vin se positionne?
Exactement. Parce que vous pouvez visualiser le parcours de la goutte. Ça commence au bout de la langue, c'est étroit, serré, long, ça va descendre. Vous pouvez le suivre derrière le sternum. C'est un peu rugueux, c'est légèrement douloureux, c'est pas forcément très agréable. Par contre, c'est très rafraîchissant. Prenez une goutte du deuxième. Alors, j'ai des questions. Est-ce que ça a la même largeur? Est-ce que ça a la même épaisseur? Est-ce que ça a la même chaleur?
Plus large, plus chaud?
Plus large, plus chaud, plus consistant, plus lourd quelque part. Et regardez, ça part sur la largeur de bouche. Alors que le vin précédent est un vin qui est précis, qui est étroit, qui est très rectiligne et qui descend. Ici, j'ai un vin qui part dans la largeur de bouche. Et regardez quelque chose de tout à fait spectaculaire. Vous pouvez reprendre une troisième fois parce que ce qui est extraordinaire, c'est que vous aurez 3 fois, 10 fois la même information, le même film exactement. Vous verrez que la goutte disparaît. Vous n'allez pas la déglutir, elle disparaît dans votre bouche. C'est tout à fait spectaculaire. Et surtout, ce qui est encore plus spectaculaire, c'est que là, nous sommes fabriqués tous exactement de la même façon. Il nous est tous arrivé exactement le même film. Donc, on peut parler ensemble de ce qu'on éprouve. Parce que quand je raconte des arômes en tournant le verre, je ne raconte pas le vin, je raconte mon histoire. c'est insoluble pour mon voisin, il ne comprend rien. Il n'a pas vécu mon enfance, il ne peut pas avancer sur mon terrain. Donc c'est des dégustations extrêmement individualisées, extrêmement appauvries. Il n'y a pas d'humanité dedans, parce que l'humanité, c'est le partage. Et donc, quand on parle de quelque chose qui nous est arrivé tous, exactement au même endroit, avec la même force, la même temporalité, on est ensemble, on parle de la même chose. Vous voyez, là, on aurait tous dégusté par la voie normale, on est d'accord sur rien. Là, on a dégusté par cette voie un peu nouvelle et un peu étrange, ben, on a posé des choses quand même sur la table qui sont extrêmement puissantes et partagées. D'accord ? Donc vous voyez bien que comme pour la poignée de main, j'ai un premier contact, une énergie qui passe et une façon dont elle, quelque part, forme une trace. Donc le premier vin que vous avez goûté, c'est un vin d'un terroir blanc, d'un terroir granuleux, cristallin. Le cristal qui le constituait tout petit, comme un grain de sable. Et c'est ça qui me prend la bouche, qui me rafraîchit, qui me vibrillonne et qui est extrêmement précis et rêche quand ça descend. C'est un terroir granitique. Le deuxième vin, c'est un terroir rouge comme du sang, avec une roche calcaire extrêmement pauvre. Et c'est chargé de soleil et de chaleur, bien que l'endroit soit en haut du coteau, exposition nord. Est-ce que vous pouvez me donner des informations sur le paysage, à part ça ?
Il y a une image mentale qui vous vient à l'esprit ? Est-ce que c'est une zone... Est-ce qu'il y a un vin qui vous rappelle le vent ? Est-ce qu'il y a un vin qui vous rappelle une structure paysagère particulière ? Est-ce qu'il y a de la forêt à côté ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait écho un peu à ce que vous avez ressenti en bouche ? Est-ce qu'il y a une image d'un paysage qui vous vient à l'esprit ?
Vous pouvez aussi parler d'ouverture du paysage, parce que l'ouverture du paysage, c'est quelque part la façon dont architecturalement le vin est construit, et d'ailleurs le paysage est construit. Et vous pourrez bien distinguer les deux modèles. Il y a un modèle un peu plus étroit et un modèle un peu plus large, plus ouvert.
On les libère ?
Non, on ne les libère pas encore. Je ne vous libère pas encore parce que je vais vous passer deux roches. Alors, évidemment, je ne suis pas venu en camion, j'en ai 6 en tout. Donc, je vais en mettre 2 de chaque côté au début, et puis j'en donnerai 2 au fond. Vous allez les passer. Je vous demande d'éprouver les 2 roches. Évidemment, les 2 pierres, elles n'ont pas forcément exactement au gramme près le même poids. Mais distinguez bien la différence de masse, de densité, de chaleur, de rugosité, de trace. De bienveillance aussi, parce qu'il y en a une, je pense, qui est plus bienveillante que l'autre. Et après, vous pourrez me parler des couleurs de ces 2 roches. Vous passerez à votre voisin ?
Ça va être dur avec le masque, Jean-Michel.
Ah non, ils sont capables de le faire.
Ça risque d'être malveillant avec un caillou.
Ah ben, tu vois, c'est une des choses... C'est là que les gens arrivent le plus facilement.
Au hasard, on rebat les cartes.
Voilà les 2 roches.
Et vous avez deux esprits dans vos mains. Qui vous parle ? Est-ce que vous pourriez imaginer une correspondance ? Donc ça, vous pouvez le faire mentalement. Où est-ce que je mettrais tel caillou sur tel verre ?
Donc là, vous avez, quand vous touchez la roche, vous avez les sensations tactiles de rugosité, de poids, de densité, d'énergie qui vient tout de suite ou plus doucement, de rayonnement. Il y a toutes ces notions-là qui apparaissent. Et c'est marrant parce que c'est un des exercices qui est le plus facile. Les gens m'associent spontanément, très très facilement, les roches au vin.
Parce qu'on va au-delà des mots. Il n'y a pas un mot pour décrire ces roches-là. Vous avez, vous, interagi avec les roches, avec votre manière, votre façon de faire. Vous n'avez pas essayé de verbaliser cette sensation. Et en étant plus synthétique, finalement, en ne se mettant pas à la barrière des mots, vous avez peut-être pu agglomérer beaucoup plus de messages sensoriels et du coup, peut-être... vu un esprit plus général qui permet de mieux associer le verre avec la roche. Si on s'était basé que sur la couleur, si on avait regardé que la couleur des roches avec la couleur des vins, vous auriez trop essayé de réfléchir, trop essayé de calculer, trop essayé d'être logique, pas assez intuitif. Donc cet exercice-là, Rien ne vous empêche, après, quand on va enlever le masque, de reprendre votre méthode de dégustation classique, aussi confortable soit-elle, aussi personnelle soit-elle, analytique, anglo-saxonne, peu importe le monde d'où vous venez. Mais l'idée, c'est que combiner ces méthodes de dégustation, elles vont permettre de regarder le vin sous des angles différents, de regarder un tableau sous des résolutions différentes, à des distances différentes. La dégustation géosensorielle et intuitive telle qu'on vient de la faire vous force à regarder le tableau général. Quand en analytique, vous allez décomposer le vin et regarder si le niveau d'acidité correspond à ça, si la forme de l'acidité correspond à ça, si au niveau aromatique, il y a tel item qui correspond dans votre mémoire à la catégorie, je sais pas, Gewürztraminer, Riesling ou Merlot.
Oui, c'est bon. Tout le monde a eu les pierres ? Très bien. Voilà. Alors, avant qu'on enlève les bandeaux, je voulais juste vous mettre un peu sur la piste des conséquences de ce qu'on vient de vivre. Après, on pourra en discuter. Je m'appuierai bien sûr sur ce qu'on vient de vivre ensemble, mais je m'appuierai aussi sur des centaines de dégustations qui ont précédé ce moment que j'ai fait avec plein de gens de tous les horizons. Et en particulier, des gens qui avaient une caractéristique, ils étaient très distribués en termes d'âge. J'avais très souvent les grands-parents, les parents et les enfants. Les enfants, ça commençait à 10 ans, parfois même un peu avant. Parce qu'il y a une maman qui m'a dit, si ça me fait saliver là et que c'est bon pour moi, je sens que ça me rafraîchit ou ça me remplit, ça ne peut pas être mauvais pour mon gamin. Surtout qu'elle avait compris que j'en avais versé 7 gouttes dans son verre et que même ayant renversé le verre dans le noir, j'ai remis le verre debout, il est toujours plein pour elle. Réfléchissez. Vous renversez le verre et vous êtes toujours capable d'identifier lequel des deux est plein, lequel est vide. Ça, c'est intéressant. D'accord ? Et puis, au-delà de ça, de temps en temps, il y a un vin qui n'en voit rien. Les gens ne sont pas capables de le décrire. Et quand ils le prennent en bouche, c'est compliqué. Il y a un mouvement de rejet. La présence est très insignifiante et le vin est hostile. Ils n'ont pas envie d'y regoûter. Et très souvent, quand ils regoûtent, c'est un peu différent. Donc ça, c'est une catégorie de vin bien particulière dont on ne parlera pas par charité publique, parce qu'il n'y a rien à en dire, sinon que c'est une forme de scandale de conduire une vigne pour produire du raisin qu'on n'aurait pas pu manger. Parce que les vins qu'on vient de goûter et tous ceux qui envoient quelque chose dans les verres ont une caractéristique, c'est toujours fait avec des raisins qu'on a envie de manger. D'ailleurs, réfléchissez, pourquoi avez-vous salivé ? Mais parce que je vous donne quelque chose qui est de nature énergétique et alimentaire. Si je vous donne quelque chose qui ne vous nourrit pas ou ne vous rafraîchissez pas, vous avez un mouvement de rejet, vous n'avez pas envie de recommencer, voilà. C'est ce qu'on a fait à 95% de la population humaine à qui on a versé des vins qui indiquaient lourdement, bruyamment, qu'il ne fallait pas recommencer. Donc sur les trottoirs, marchent plein de gens qui aujourd'hui sont dans la déconsommation parce que tout simplement, ils n'ont pas goûté de grands vins qui remplissent, qui soulèvent, qui occupent tout l'espace de l'imaginaire et en particulier, et Gabriel peut en parler mille fois mieux que moi, la mémoire, parce que les arômes s'envolent, mais la sensation tactile, le pointu, l'arrondi, le lisse, le gras, le large, tout ça, c'est des mots extrêmement précis dont vous pouvez conserver une trace indéfinie. C'est quoi le grand vin ? C'est pas le vin que j'aime, c'est le vin que je raconte à mon pote. Parce que 20 ans plus tard, j'en salive encore. Et donc le mec à qui je le raconte, il dit « Arrête, je commence à saliver moi aussi. » Le vin n'est pas là, ça fait 20 ans qu'il est oublié. Ça marche comme ça, d'accord ? Le grand vin est un objet de la mémoire, c'est pas forcément un objet du goût, parce que notre goût, il est très éphémère, il s'envole, alors que les mots de la présence, les mots de la bienveillance, les mots du poids, de la chaleur, les mots du pointu et de l'arrondi, toutes ces notions-là, elles sont imprimées, elles ne s'envolent pas. D'accord ? Donc, vous avez un outil dorénavant pour capturer des vins de terroir et faire la différence avec les autres. Parce que le terroir, le tiroir caisse, tout le monde en parle, personne ne sait ce que c'est. Vous venez d'avoir une définition de ce que c'est un lieu qui est exprimé dans un fruit qu'on a envie de manger, finalement un vin qu'on boit et qui fait saliver. D'accord ? Ça, c'est des choses extrêmement puissantes qui sont, pour moi, de nature à peut-être changer ce que sera, dans quelques années, le vin dans la société. Voilà, petit moment douloureux, vous pouvez enlever le masque, vous verrez, c'est pas rigolo. Votre cerveau, il retrouve la fausse réalité, c'est pas trop rigolo, ça fait un peu mal. Et là, vous allez repartir dans l'illusion parce que les images vous manipulent, les images vous emmènent, les images vous baladent. Et, ah, je fais joli. Avant que vous n'alliez dans un exercice encore plus compliqué, je voulais juste vous demander lequel est lequel. Lequel est lequel ? Ça, c'était le vin numéro 1 ou le numéro 2 ? Le 1. 0% d'échec dans ce petit exercice. Quand les gens ont goûté ces deux vins dans le noir, tout le monde me dit que ça, c'est le vin numéro 1 et ça, c'est le vin numéro 2. Pourquoi ? Parce que là, vous avez la représentation fabriquée collectivement de l'image mentale du vin. Ça, c'est froid, c'est pointu, c'est rafraîchissant, c'est précis, ça vient tout de suite, ça impacte. Et ça, ça nourrit, ça accompagne, ça remplit, c'est sédimentaire, construit en couches successives. Voilà, donc quand l'étiquette dit ce qu'il y a dedans, on a déjà franchi une frontière, on est sorti d'une première tentative de dédoublement. On vous vend autre chose que ce qu'il y a vraiment dedans. C'est un petit point important. Un terroir a une image. Alors comment on fabrique ça? C'est très simple. Hein. 25 personnes, on est dans le noir une demi-heure, et puis on raconte l'image qu'on a vue. Et on a tous vu quelque chose qui est précis. Il y a des formes, il y a des informations, il y a des couleurs. Et après, ça fait un portrait robot, comme on cherche le criminel. Et après, j'ai des images, et puis les gens me disent « Stop, tu t'arrêtes là, reviens en arrière, c'est celle-là. » Et c'est toujours la même qui est choisie, et c'est celle-là que vous allez trouver obligatoirement.
Et pourquoi dans cet exercice-là, on essaie d'avoir 25 personnes qui travaillent ensemble, et pas qu'une seule? Et puis surtout, pourquoi on ne se fixe pas sur un point de détail? L'expérience que vous avez devant vous, je vous ai donné une petite touche de parfumerie. Je vais vous poser une question toute simple, c'est: est-ce qu'il y a des personnes dans la pièce qui ne sentent rien du tout sur cette touche? Moi, je ne sens rien du tout, j'ai fait cette odeur à l'aveugle, je ne sens rien du tout. Il y a combien de personnes qui ne sentent rien sur cette touche? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Presque, vous ne l'avez pas eu. Hop, on va vous en donner tout de suite. Donc, en fait, sur cette molécule-là, elle n'est perçue à cette concentration-là que par à peu près la moitié à deux tiers de la population occidentale. Parce que le système olfactif est un système où il y a beaucoup de variabilité génétique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les personnes qui ne sentent pas comme moi, on est un petit groupe là. Cette molécule-là qui s'appelle... Vous ne l'avez pas eu? Est-ce que votre voisine en a deux ou pas? Ouais. C'est la même chose, hein, toutes les touches sont la même chose. Cette molécule-là, elle se fixe à un capteur olfactif qui est malheureusement très variable dans la population. C'est-à-dire qu'entre vous et moi, il y a de grandes chances qu'on n'ait pas le même type de capteur et qu'il ne fonctionne pas avec la même puissance. Moi, il faut augmenter fois 1000... pour que je puisse sentir la même chose que vous. Et dans le monde olfactif, c'est ce qu'on appelle un peu par image, un peu comme si on était daltonien. On est tous un peu daltonien. Daltonien, vous savez, c'est ces personnes qui ne voient pas la couleur rouge à cause d'une défaillance génétique. Et bien, dans le système olfactif, on est tous daltoniens. Il y a des odeurs qu'on ne sent pas et des odeurs qu'on sent. Ce qui rend le système olfactif assez compliqué, parce que même s'il est très riche en termes de capteurs, on a 400 capteurs chacun dans notre nez, ce qui est beaucoup. C'est 2% de votre génome dédié juste à ça. Mais c'est aussi la famille de gènes la plus variable dans tous nos gènes qu'on contient dans notre corps. C'est la famille la plus variable dans la population. Deux personnes prises au hasard ont au moins un tiers de leurs capteurs qui sont différents de ceux de son voisin. Donc ça, ça fait que sur le système olfactif, même si on peut décrire beaucoup de choses du point de vue des odeurs, quand on va essayer d'unifier une perception, ça va être compliqué. Exemple classique, j'ai une bouteille de vin bouchonné sur la table, ben, y a quelqu'un qui ne va pas le sentir, d'autres qui va dire, quelqu'un qui va dire que c'est affreux, d'autres qui va dire que c'est un peu léger, et on va avoir tous les cas de figure. Ça, c'est quand ça arrive, surtout quand on s'appuie sur un détail particulier. Là, qu'est-ce qu'on sent ? Ce qu'on sentit, aidez-moi, qu'est-ce que vous avez senti ? Est-ce qu'il y a une odeur qui vous est, un mot qui vous est venu à l'esprit ? Fleur blanche. Poudré. Poudré, très bien.
Chèvrefeuille.
Quoi d'autre ? Aidez-moi, moi je sens rien du tout. Fleur de lys, talc, quelque chose de poudré.
Très intense.
Alors quelque chose d'intense, alors, tu vois, moi je suis complètement aveugle, je vois rien. Donc la molécule qui est là, c'est une molécule qui s'appelle la bêta-ionone, qui évoque normalement, qui rentre dans la composition de la fleur de violette. Donc ce qu'on dit poudré, floral, rose, etc., c'est complètement dans ce sens-là. Le problème, c'est que cette molécule-là, moi je sens les fleurs de violette. Je suis né près de Toulouse, je sens très bien les fleurs de violette, mais cette molécule-là, je ne la sens pas. Le problème, c'est cette molécule-là qu'on va retrouver dans le vin et pas les 50 composés qui sortent d'une fleur de violette. Et donc, quand on reconstruit l'arôme du vin avec une molécule ou quelques molécules, il y a de grandes chances qu'on ne voit pas la même chose. Donc, c'est pour ça que c'est important, quand on va commencer à décrire des arômes dans une description analytique, plus on rentre dans le détail et plus on perd des gens. Donc, c'est dans l'exercice de la géosensorielle, le but du jeu, c'est vraiment d'essayer de faire le chemin inverse, d'être ouvert sur mes perceptions globales qui se connectent avec les autres sens, et d'essayer de reconnecter les morceaux. Parfois, moi, j'ai un morceau, là, je ne sens pas. Il y a un morceau du puzzle que je ne peux pas voir. Mais j'ai tous mes autres sens qui peuvent m'aider à reconstruire l'image globale. Donc, ton expérience plus riche que la mienne montre que le système olfactif, là-dessus, je ne vais pas réussir à unifier tout le monde si je commence à décrire un vin du point de vue aromatique. Et donc, il faut essayer de changer d'autres chemins de perspective. C'est pour ça qu'on nous a forcé ici à regarder le vin sous un autre angle.
Il y a deux conséquences au petit exercice qu'on vient de faire. La présence lourde dans le discours du vin de mots valises. Fruité, automnal, riche, froid. C'est des mots valises. Chacun met ses arômes dedans. C'est comme ça qu'on unifie la population, fondamentalement différenciée, où les gens individuellement ne voient pas le même paysage. Donc on leur colle un mot valise dans lequel ils peuvent ranger leur fantasme, et c'est comme ça qu'on arrive à produire quelque chose. La deuxième conséquence, elle est encore plus triste. Tout le monde a déjà eu un numéro de la RVF entre les mains. Depuis 30 ans, le petit cahier central en papier légèrement plus lourd et plus riche avec une texture, personne ne le lit. Personne ne le lit, à part celui qui l'a écrit. Parce que celui qui l'a écrit, il parle de quoi ? Il parle que de lui. Gardez cette image, elle est terrifiante. Un mec qui tourne un verre et qui raconte de quoi il parle. À 95% de lui, il parle de son propre parcours, il parle de toutes ses premières fois, il parle de son enfance, il parle de son réglage génétique, sa propre personnalité, ce que lui voit. Qu'il tient pour objectivement certain. Il faut que vous arriviez à changer votre regard. Vous avez un verre de vin, ce que vous voyez, c'est votre point de vue. Ça ne peut pas être le point de vue de votre vis-à-vis. Il voit autre chose que vous. Le seul endroit où on voit la même chose, les enfants, c'est dans le noir. Dans le noir, on est beaucoup plus précis, on est beaucoup plus ensemble. Et quand un objet est chaud, il est rarement froid. Quand un objet est pointu et intrusif, il est rarement large et accueillant. Lorsqu'il est court et que la trace de la poignée de main s'efface, il est rarement long et prégnant pour la multitude. Voilà, donc j'ai appris tout ça un jour par hasard parce que j'avais un de mes clients. Je le raconte parce que c'est une émotion intense. J'avais un de mes clients qui est aveugle, je suis descendu à la cave et pour lui faire plaisir, j'ai fait goûter des vins au robinet. Et à un moment, il me dit, mais Jean-Michel, qu'est-ce que tu m'as versé ? Je suis bouleversé, Tu vois, je suis sur la dune, j'ai un souffle chaud du Sahara, la peau me pique comme si j'avais mis ma tête trop près de la flamme, de l'âtre. Et tu sais, dans ma tête, c'est noir tout le temps, et bien là, c'est rouge comme du sang. Qu'est-ce que tu m'as versé ? J'ai dit, je t'ai versé du Rothenberg, la colline rouge. Le sol est rouge comme du sang, c'est un endroit torride. Faut pas y aller le 14 juillet, parce qu'on n'y tient pas l'après-midi. D'accord ? Il avait vu, lui, ce que moi, qui ai travaillé cette vigne pendant 40 ans, n'avais pas vu. C'est là, ce jour-là, je suis rentré dans le truc. Et après, le hasard des rencontres, le goût du travail aussi, de creuser un sujet, de comprendre comment ça marche, fait qu'aujourd'hui, on peut emmener, je pense sérieusement, on peut vous emmener au moins dans le conseil, devant un verre de vin, identifier sa présence et son niveau de bienveillance. Déjà, vous aurez un premier renseignement extrêmement puissant. Est-ce que c'est finalement du vin ou pas ? Un ersatz refabriqué pour vous sécuriser socialement, avec une belle bouteille, d'une forme connue, une belle étiquette, un nom qui ronfle, éventuellement rien du tout dans la bouteille, c'est très commun. Donc faites ce petit exercice, fermez les yeux, ça ne coûte rien. Vous laissez venir l'objet, vous recevez ses caractéristiques unanimes, et après, vous prenez encore ce petite seconde de temps pour regarder comment votre corps réagit lorsque vous prenez la première goutte. Qu'est-ce qui se passe quand vous prenez la première goutte ? Je vous donne juste une information, c'est concentré, on n'a qu'une heure. Si ça ne salive pas, ça ne contient rien. Il y a énormément de vin. Vous allez en goûter même tout à l'heure. Vous êtes incapable d'en parler 10 minutes après. Il n'y a rien dedans. C'est joliment fait. C'est un vrai bonheur. Et on a du plaisir à tourner le verre parce que c'est une très jolie étiquette. Ça représente du pognon, donc quelque part de la valeur. C'est super, sauf que vous n'en aurez aucune mémoire. En repartant, en prenant le métro, c'est effacé. Intéressez-vous aux autres vins, ceux qui portent une énergie native que le vigneron n'a fait que transmettre. Il ne sait pas le produire. Moi, si vous me dites de faire un vin froid et serré, si je n'ai pas du granit, je ne sais pas le faire. Et si j'avais que du calcaire, je serais condamné à avoir quelque chose d'assez massif, large en bouche et nourricier. Voilà, je n'ai pas le choix. D'accord ? J'avais une chance formidable, c'est là où je suis, sur ce petit kilomètre carré, il y a tout. Même le volcan. Donc évidemment, on ne pouvait pas comprendre ce qui se passe là sans passer par cette case de l'obscurité qui est très, très riche. Puis, de temps en temps, se regarder vraiment au fond du puits, quoi, ça fait du bien. On se dit, est-ce que je suis vraiment ce que je prétends être ? C'est un bon exercice, une hygiène mentale. Voilà, je voulais tous vous remercier. J'espère qu'il restera une toute petite trace de tout ça dans votre parcours et que peut-être de temps en temps, vous prendrez les quelques secondes qu'il faut pour faire le silence, fermer les yeux et écouter votre corps, enregistrer l'arrivée ou l'absence de l'énergie du lieu. Et vous pouvez faire ça, et c'est le point final, vous pouvez faire ça avec un être humain, avec la poignée de main, vous pouvez faire ça au restaurant avec l'assiette. Il y a des assiettes, franchement, sincèrement, il vaudrait mieux ne pas en manger. Vous n'êtes pas bien après, vous êtes lourd, vous êtes mal foutu, vous êtes improductif, vous n'arrivez pas à vous dépêtrer de quelque chose qui vous colle au sol et c'est juste une assiette. Après, ça devient compliqué parce que mon propre vin servi pour des gens que j'estime au restaurant, sur des plats que j'avais choisis, dont j'ai éprouvé les accords, et bien un jour, pour l'ensemble du repas et les 5 vins que j'ai présentés, rien n'a matché. Rien n'a matché. Les vins étaient juste absents, juste désastreux. Et donc je me suis vraiment interrogé pourquoi ça n'a pas matché. Et puis la vie c'est des hasards. La semaine d'après, ma femme me dit par hasard, dans une conversation, tu sais, la petite sommelière au restaurant, on était la semaine dernière, j'ai appris qu'elle a loué la vigne à côté de nous à un tel. Elle a commis une mauvaise action. Eh bien, dans sa posture, dans son énergie, dans sa gestuelle de ce travail, elle a anéanti les vins sans le savoir. Elle a détruit l'énergie sans le savoir. On peut détruire quelqu'un. Il suffit d'agir sur son mépris, son niveau de sa tolérance au mépris. Voilà. J'ai toujours frappé, je me mets à 2 mètres d'un mec, je lui dis, écoute, t'es vraiment, entre, t'es chez toi, t'es un type formidable. Si je lui dis, t'es une merde, sors parce que je supporte pas, je peux pas respirer le même air que moi, ça ne fonctionnera pas pareil. D'accord ? L'énergie, ça existe, quoi, ça circule entre les êtres. Et donc cette fille a apporté une destruction massive, un anéantissement à mes 5 malheureuses bouteilles, qui par ailleurs, le lendemain, avec d'autres personnes, sur les mêmes plats, se sont révélés rayonnants. Donc je peux détruire quelqu'un, il suffit de le décréter orphelin. Il y a plein de gens qui ont été dans une famille d'accueil, mais ils cherchent toujours leurs parents. Réfléchissez bien. J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Voilà, un vrai vin qui a été accompagné, qu'on a versé avec ferveur dans un verre et qui est à la disposition de celui qui va le goûter, ce vin-là envoie tout. Toute l'énergie qui est dedans, elle est disponible. Vous pouvez tourner le verre et passer à côté, c'est votre liberté. Mais si vous fermez les yeux, vous l'aurez. D'accord ? Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite bonne chance et je vous remercie. Merci.